grâce, Seigneur, se répand dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Bienvenue sur Présence, très heureux de vous accueillir en ce moment difficile. Nous allons tous ensemble nous divertir avec vos émissions dans 10 minutes. L'interview du jour suite à l'allocution de Monsieur Macron à lundi à Crescenzo, président de la Chambre des commerces et de l'industrie d'Occitanie, partage ses convictions qui tiennent en 3 points à ne pas louper. C'est avec Thibaut de Tuile. Dans 20 minutes, l'agenda du diocèse avec Emmanuel Pella. Et en deuxième partie de l'heure, le tour des diocèses et nous allons à Bayonne. Et en fin d'heure, votre chronique Église verte avec Laura Morosini. Le sujet sera sur la COP21 et le label Église verte. Juste avant. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les titres en Occitanie. Georges Méric, président du département de la Haute-Garonne, parmi les premiers à agir suite à l'annonce du reconfinement. Je regrette les tergiversations du gouvernement ces dernières semaines et les décisions prises au compte-gouttes qui nous ont fait perdre un temps précieux contre la maladie, a-t-il déclaré. Appel aux bénévoles des EHPAD en Aveyron. Les directeurs d'EHPAD de l'agglomération de Rodez et les personnes de santé lancent un appel aux bénévolat pour aider les personnes âgées à être le moins perturbé possible par la Covid. Le confinement a eu des conséquences psychiques importantes pour les Français. C'est le résultat de l'étude menée par Florence Sorde, maître de conférence en psychologie à l'Université de Toulouse. 20% des sondés ont développé de la détresse psychologique importante. La région Occitanie a assuré une troisième livraison à la Banque alimentaire de Hoche. Lancée pendant le premier confinement, l'opération menée par la région permet l'accès aux produits frais pour les plus défavorisés. À Haussin, le projet de porcherie ne se fera pas. La société Select Port a déclaré d'abandonner le projet qui devait accueillir sur le village près de 2000 porcelets par cycle d'engraissement. Avant Toussaint, les gendarmes appellent à la prudence. Les gendarmes attendent une recrudescence de vols autour des cimetières. Le Castellet rénové de la prison à Saint-Michel à Toulouse a ouvert pour la première fois ses portes au public. La mairie en a fait un parcours mémorial mêlant l'histoire pénitentiaire aux souvenirs de la résistance toulousaine et la détention et l'exécution des prisonniers politiques sous l'occupation.
La météo.
Pour cet après-midi, vous aurez des éclaircies partout dans l'ex-région Midi-Pyrénées, 18 degrés en moyenne. Pour demain matin, de la brume dans quelques départements avec 9 degrés près du lycée Champollion à Figeac, ainsi qu'en Haute-Garonne et dans le Gers. Partout ailleurs, il fera beau avec là aussi 9 degrés pour l'Aveyron, 12 près de Lannemezan. Pour l'après-midi, un grand ciel bleu pour tout le monde. Le mercure montera jusqu'à 20 degrés dans le Lot. En haut de la tour d'Armagnac à Hoche et à Saint-Gaudens, 21 dans les Hautes-Pyrénées et 18 pour Rodez.
Présence à Belmont-sur-Rance 93.1.
Thibaut de Tuile, vous êtes avec votre invité de ce jeudi 29 octobre.
Alain Di Crescenzo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de la Chambre de commerce et de l'industrie d'Occitanie. Nos auditeurs vous connaissent bien car vous nous faites l'honneur d'être fidèle à la radio en acceptant régulièrement nos émissions. Donc merci d'être avec nous ce matin.
Merci de m'inviter.
Alors, nous avons écouté le président de la République hier soir, bien sûr, qui nous a annoncé un coup de frein brutal, ce sont ses mots, sous la forme d'un confinement jusqu'au 1er décembre. Et puis cette phrase qui m'a marqué, pas d'opposition entre économie et santé. Est-ce que c'est un mensonge d'État ?
Non, je ne pense pas que ce soit un mensonge d'État. Après, on mesurera les conséquences. Je crois que ce que je comprends de ce qui s'est dit hier, et je le partage, c'est que donc on ne joue pas avec la santé. Et quand on explique qu'on pourrait avoir 400 000 décès, alors je n'ai pas compris si c'était en plus ou au total, mais c'est déjà énorme. Oui. Donc il est clair qu'il faut prendre des mesures très importantes. Oui. Maintenant, se dire que ces mesures n'auront pas d'impact sur l'économie, là on se trompe. ces mesures auront un impact, ce confinement aura un impact sur l'économie qui sera pour moi très important, et on pourra revenir dessus, parce qu'on est dans un contexte particulier, et donc on doit analyser ce qui nous arrive en fonction aussi de ce qu'on a déjà vécu.
Effectivement, il y a d'autres personnages qui se sont exprimés, bien entendu, depuis quelques jours. Par exemple, Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF, qui dit bien sûr que les entreprises sont beaucoup plus fragiles qu'en mars dernier. Il pronostique, lui, un écroulement de l'économie française. Est-ce que vous trouvez ces propos outranciers ?
Non, écoutez, moi je vais vous faire une analyse. Alors, je ne vais pas reprendre les propos de Geoffroy Roux de Bézieux, je n'ai pas entendu. Mais moi, je l'analyse de ce qui nous arrive, la situation, je l'analyse, ou l'impact, selon trois grandes composantes.
Oui.
Une première composante qui est une composante de périmètre. Lorsqu'on dit aujourd'hui, on va donc geler l'activité donc de l'hôtellerie-restauration et du commerce non essentiel.
Oui.
Ça pèse un tiers de l'emploi. Voilà. Il faut bien se mettre à l'esprit que ça pèse globalement un tiers de l'emploi salarié.
En Occitanie ou en France entière ?
Oui, mais c'est pas, à peu près partout pareil. Je ne pense pas qu'on soit un cas particulier.
D'accord.
Deuxièmement, la période est aussi importante. Oui. Vous feriez la même chose. Au mois de janvier, après les fêtes, après un mois de décembre qui s'est bien passé, après une année qui s'est bien passée, on aurait sans doute donc un guet qui serait assez facile à passer. Mais aujourd'hui, nous faisons cet arrêt de l'économie dans une période qui pèse pour ces commerces dont on a parlé, même pour toutes les entreprises qui doivent se refaire, entre guillemets, qui peuvent peser jusqu'à un tiers de l'activité. Ça, c'est la composante période. Et après, vous avez une composante de contexte. Et je reprends sans doute ce qu'a pu dire Geoffroy Roux de Bézieux. On est sur une deuxième vague où les systèmes immunitaires de l'entreprise sont à plat. C'est ça qui se passe.
La trésorerie, en quelque sorte.
Usée. Mmh. Voilà. Et d'autre part, on est sur une période où, si je prends le cas de l'Occitanie, bon, on vit les mêmes choses que le reste de la France, mais aussi quelque chose de particulier. C'est que notre industrie est à plat et vous savez que ce territoire vit pour beaucoup en termes de croissance, en termes d'exportation sur son industrie, notamment aéronautique, qui est à plat et qui est terriblement touchée. Voilà. Donc, si vous voulez, je suis d'accord sur le raisonnement de Geoffroy Roux de Bézieux. Si je pense ces trois composantes,
oui,
pour moi, du niveau sur le plan de l'économie, ça sera terrible.
Et pourtant, moi, je comprends qu'en ne fermant pas les écoles, M. Macron souhaite maintenir le chemin du travail pour les entreprises. Au maximum en télétravail, bien sûr, mais aussi physiquement. C'est tout de même un petit mieux par rapport à mars dernier.
Alors oui, mais ça n'enlève pas le côté cumulatif, vous voyez. Alors c'est un mieux, oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, une entreprise, compte tenu de la période, va avoir envie d'investir ? Est-ce qu'aujourd'hui, ce tiers de l'économie qui est gelé, qui va être fermé, donc ne va pas manquer à la fois à la demande et à l'investissement ? Bien sûr que ça va manquer. Donc si vous voulez, c'est vrai que le fait de faire en sorte que les enfants puissent aller à l'école, puisqu'on parle des enfants, le monde universitaire est encore différent, ça va faire en sorte qu'on puisse être au travail. Mais la question, il ne s'agit pas que d'être au travail. Il s'agit d'avoir des commandes lorsqu'on est en entreprise. Voilà. Et il s'agit d'avoir des flux, c'est-à-dire comment seront les flux dans une période où on est confiné, où sans doute les gens n'ont pas trop le moral, et donc vont plutôt se retourner vers l'épargne que l'investissement et la consommation.
Oui. Oui, effectivement. Alors pour le coup, on annonce des chiffres, évidemment, il y a des avalanches de chiffres absolument dans tous les sens. D'ailleurs, il y en avait hier à la télévision qui était soigneusement annoncé. Le ministre des Comptes Publics, lui, il annonce moins 2 points de PIB. Mais en fait, pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose, 2 points de PIB. Quand vous traduisez ça en perspective dans le poids détruit en Occitanie, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ?
Écoutez, moi je suis parti sur... alors on a travaillé secteur par secteur. Alors j'avoue que sur nos statistiques, si vous voulez, ou nos prévisions, on n'intégrait pas ce nouveau confinement. Mais globalement, si on prend l'écosystème aéronautique, qui est quand même très important, aujourd'hui, lorsqu'on regarde les mesures de l'État qu'il faut saluer, encore une fois, on estime que ça va diviser par 2 le nombre de licenciements globalement. On estime qu'il y aura à peu près 10 000 personnes qui seront sans emploi dans le monde aéronautique, en emploi direct. En emploi direct, vous pouvez multiplier par 2. D'accord. Donc vous avez 30 000. Et lorsque je regarde ce qui arrive sur les autres secteurs, on ne peut pas imaginer qu'on n'arrive pas à un risque qui puisse aller au-delà des 50 000, 60 000 emplois perdus, ce qui est énorme. Concernant les 2 points de PIB, je crois qu'il ne faut pas le regarder comme ça. Il faut le regarder sous un angle un peu différent. C'était la reprise. C'était la reprise. C'est ce qui allait nous permettre de faire une année, d'amorcer une année 2021. Donc le fait, si vous voulez, d'avoir ce blocage en fin d'année. D'une part, ça va empirer l'année 2020, mais ça va hypothéquer l'année 2021. Et c'est ça le plus grave, si vous voulez. On estimait avoir une croissance du PIB à l'ordre de 6%, si je me souviens bien, 6-7%. Ben écoutez, cette période va freiner cette reprise.
Oui, bien sûr.
Et c'est, pour moi, relativement grave. Alors, la question, si vous voulez, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour récupérer un peu?
Oui.
Parce que la question est là, et je crois que le gouvernement l'a assez dit, on parle de 10 000 euros, on parle de chômage partiel, on parle de trésorerie, etc.
Voilà.
Premièrement, il ne faut pas se leurrer.
Il y a une série de mesures qui sont annoncées pour les chefs d'entreprise, mais bon, c'est...
Oui, mais il ne faut pas se leurrer, 10 000 euros. Oui. Si on regarde ce que sont les charges d'une entreprise, vous avez l'emploi, chômage partiel, j'ai compris, mais après, vous avez des loyers, vous avez des emprunts, vous avez des charges qui sont des fois incompréhensibles, les impôts et taxes sont incompréhensibles, etc. Oui, vous pouvez arrêter le marketing et les frais de déplacement, c'est vrai. Et puis vous avez le salaire et des dirigeants, c'est-à-dire il faut bien qu'ils mangent. Et si vous êtes une entreprise de 2 à 3 personnes, peut-être que 10 000 euros par mois, ça peut suffire. Mais si vous avez une entreprise de 50 personnes, 10 000 euros ne suffira jamais.
Oui.
Donc, si vous voulez, là-dessus, il faut bien comprendre que lorsqu'on met 10 000 euros sur la table comme 2 points de PIB, il faut tout de suite le mettre en perspective avec les besoins des entreprises et ce qu'elles consomment tous les mois.
Mais là, on peut supposer que d'ici la fin de la journée, les annonces un peu plus détaillées qui vont être faites par le gouvernement vont par exemple comprendre le calmement du remboursement du PGE ou les règlements de loyers différés ou des choses comme ça. On attend encore d'autres mesures plus précises.
Écoutez, franchement, je l'espère, parce que si on s'arrête là, ça sera très dur. Maintenant, si vous voulez, je voudrais revenir sur les remèdes, parce que le remède, c'est l'argent, il en faut. Je voudrais vous donner 3 pistes, si vous voulez bien, parce que, premièrement, c'est être transparent. Il ne faut pas dire, il ne faut pas laisser espérer une reprise dans 15 jours, si ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que les entreprises vont tous se mettre en place, se composer, se préparer à une reprise dans 15 jours.
Oui,
si ce n'est pas le cas, ça peut être catastrophique pour les stocks, pour le personnel, etc. Donc là-dessus, il faut que plutôt le gouvernement nous dise comment ça va se passer. Et si on se prépare pour un mois, on se prépare pour un mois. Deuxièmement, la vitesse. Il faut absolument que ces aides arrivent le plus rapidement possible. Vitesse et agilité. Et moi, j'ai toujours peur d'une centralisation des aides au niveau national. J'ai dit, les dispositifs, mettez-les au plus près de ceux qui connaissent l'économie, c'est-à-dire ceux qui représentent l'économie au niveau régional. Le troisième point me paraît important. Préparons décembre. Et là, mettons en place un plan Marshall pour décembre. Faisons des animations comme nous n'en avons jamais faites sur nos territoires pour nos commerçants. Donnons envie de consommer et incitons les gens à consommer. Le mois de décembre doit être une réussite. Et profitons de ce mois de novembre pour le préparer.
Et une réussite locale, parce qu'on se demande un petit peu si on n'assiste pas à une distorsion de concurrence entre les supermarchés et la vente en ligne, qui pourront proposer, eux, tout de suite, des vêtements, des livres, etc., contre le commerce de centre-ville, qui, eux, devront fermer. Donc c'est vrai que c'était se préparer à décembre, c'est se préparer à se ruer dans les centres-villes, alors.
C'est faire en sorte que les centres-villes soient plus attractifs et faire en sorte qu'il y ait une juste solidarité, je le dis.
Oui.
Il y a des commerces qui vont rester ouverts, pour qui ça va bien se passer, et d'autres qui seront à l'agonie.
Mais la solidarité n'existe pas.
Il faut soigner ceux qui sont malades.
Ouais.
Et ça veut dire qu'il faudra donner par des bons d'achat. Et on fait des opérations comme celle-ci. D'ailleurs, on fait actuellement sur l'Occitanie.
Oui.
Et donc, le chef de file, c'est Montpellier, là-dessus, la Cécile Leroux.
Oui.
Donc, avec des bons d'achat pour animer les centres-villes et les centres-bourgs. Il faut absolument redynamiser ce commerce qui nous fait vivre.
Donc vous allez multiplier les offres et les incitations en ce sens pour les semaines à venir, en tout cas en préparant décembre.
Vous avez compris, là je fais un appel.
Oui.
Les chambres de commerce vont faire ce qu'elles peuvent.
Oui.
Mais simplement, bon, on n'a pas de l'argent suffisamment pour le mobiliser là-dessus. On fera tout ce qu'on pourra. Mais là je fais un appel à tout le monde. Je fais appel aux collectivités, je fais appel à l'État, je fais appel même aux entreprises. Faisons appel à la solidarité. Il faut absolument que, solidairement, les uns et les gens, conjointement, on puisse faire redémarrer cette économie au mois de décembre. Voilà. Et nous, chambres de commerce, nous serons mobilisés. Nous serons sur le terrain, à côté de nos entreprises. Mais, encore une fois, l'économie, ce n'est pas l'affaire des chambres de commerce. Ce n'est pas l'affaire des syndicats patronaux professionnels. Ce n'est pas l'affaire des collectivités, c'est l'affaire de tous. Et là, il faut bien comprendre que notre économie dépendra de l'action de tous. Et sur cette équipe, et dans cette équipe, les chambres de commerce répondront présents.
Alain Di Crescenzo, merci. J'ai retenu vos trois messages, vos trois souhaits. Être transparent, ne pas rêver à une reprise dans 15 jours. Être vite, être rapide, faire en sorte que les aides arrivent vite. Préparer décembre, faire un véritable plan Marshall pour que décembre soit une reprise immédiate et fulgurante. Et que c'est à ces conditions, vous estimez que l'économie peut quand même repartir sur cette fin d'année.
Voilà.
Merci.
Et
merci.
Retenez aussi que nous serons là. Voilà.
Vous serez là.
Bonne journée.
Merci beaucoup.
Dans 6 minutes, Église Actualité avec Emmanuel Pella et son agenda diocésain. Et sachez que vous pouvez retrouver toutes vos émissions sur le www.radioprésence.com et bien sûr sur votre portable pour être toujours avec vous dans cette période délicate. Je vous propose de vous relaxer, de prendre du plaisir avec la voix chaude de l'anglais Seal en attaquant votre repas. Bon appétit dans l'ex-région Midi-Pyrénées. This is a man. But it wouldn't mean nothing, nothing without a woman or a girl. There's just no secret that woman, she fills my loving cup. Cause she sees to it, baby. Did I get enough? Just one touch from her. You know it means so much to me. It's like thunder. It's like lightning. The way love is blinding. I better knock. Better knock. Oh, wood, baby. We've all got our funny moves. Honey, I got mine. Woman, you got yours too. Just trust in me, like I trust in you. And as long as we've been together, that should be easy to do. Get yourself together, or we might as well say goodbye. 'Cause what good is a love affair? What good is a love affair? Oh, when you can't see, when you can't see out of eye. I've been loving you too long to stop now. You were tired and you wanna be free. Become a habit to me. Ooh, I've been loving you. I've been loving you too long. I don't wanna stop now. If the sky that we look upon should tumble and fall, all the mountains should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry. No, 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 I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand
And oh, just like that river I've been running ever since. It's been a long, long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. So I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long, long time coming, but I know a change gonna come. A change. It's gonna come.
Présence dans la cité mariale 96.
Église actualité. Emmanuel Pella.
Aujourd'hui, ce jeudi 29 octobre, à Sainte-Vallière, pour rappel, l'association Camino organise une conférence sur le thème « L'hospitalité sur les chemins de Saint-Jacques » avec Adeline Recoy, qui était l'invitée de l'émission « Vivante Église » d'hier. Rendez-vous aujourd'hui, donc jeudi 29 octobre à 18h à la salle des fêtes à Sainte-Vallière pour tout renseignement complémentaire. Un site internet www.chemin-compostelle.com. Ce samedi 31 octobre à Toulouse, pour rappel une dernière fois, le diocèse de Toulouse propose de venir participer à la messe de consécration virginale de Bernadette Bourreau en présence de Mgr Robert Le Gall, archevêque du diocèse. Rendez-vous ce samedi 31 octobre à 18h à la cathédrale Saint-Étienne à Toulouse. Ce samedi 31 octobre également, à Toulouse également, la fraternité Bethesda organise le samedi de la grâce. Pour rappel au programme, chapelet, louange, prière charismatique et enseignement de Stella Marie Larocque, membre engagé de la communauté du Maire du Divin Amour. Rendez-vous ce samedi 31 octobre à 14h à l'église Notre-Dame de Lourdes à Toulouse. Ce dimanche 1er novembre à Naï, la communauté des Béatitudes propose de participer à une journée de la sainteté animée par Dominique et Elisabeth Lemaître. Ce n'est pas quelque chose de rébarbatif, mais au contraire, c'est un chemin vers le bonheur, expliquent les organisateurs. Rendez-vous ce dimanche 1er novembre dès 9h30 à la communauté des Béatitudes de Naï. Enfin, lundi 2 novembre à Rodez, pour rappel à l'occasion du jour des défunts, le diocèse de Rodez organise une messe en mémoire des personnes décédées pendant le confinement ou du Covid-19. Rendez-vous lundi 2 novembre à 18h à la cathédrale de Rodez.
Retrouvez Église Actualité sur le web en tapant www.radioprésence.com. Présence dans le Grand Toulouse, 97.9.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les titres en Occitanie. Georges Méric, président du département de la Haute-Garonne, parmi les premiers à agir suite à l'annonce du reconfinement. Je regrette les tergiversations du gouvernement ces dernières semaines et les décisions prises au compte-gouttes qui nous ont fait perdre un temps précieux contre la maladie, a-t-il déclaré. Appel aux bénévoles des EHPAD en Aveyron. Les directeurs d'EHPAD de l'agglomération de Rodez et les personnes de santé lancent un appel aux bénévolats pour aider les personnes âgées à être le moins perturbé possible par la Covid. Le confinement a eu des conséquences psychiques importantes pour les Français. C'est le résultat de l'étude menée par Florence Sorde, maître de conférences en psychologie à l'Université de Toulouse. 20% des sondés ont développé de la détresse psychologique importante. La région Occitanie a assuré une troisième livraison à la Banque alimentaire de Hoche. Lancée pendant le premier confinement, l'opération menée par la région permet l'accès aux produits frais pour les plus défavorisés. À Haussin, le projet de porcherie ne se fera pas. La société Select Porc a déclaré d'abandonner le projet qui devait accueillir sur le village près de 2000 porcelets par cycle d'engraissement. Avant Toussaint, les gendarmes appellent à la prudence. Les gendarmes attendent une recrudescence de vols autour des cimetières. Le castellet rénové de la prison à Saint-Michel à Toulouse a ouvert pour la première fois ses portes au public. La mairie en a fait un parcours mémorial mêlant l'histoire pénitentiaire aux souvenirs de la résistance toulousaine et la détention et l'exécution des prisonniers politiques sous l'occupation.
La météo.
Pour cet après-midi, vous aurez des éclaircies partout dans l'ex-région. Midi-Pyrénées, 18 degrés en moyenne. Pour demain matin, de la brume dans quelques départements avec 9 degrés près du lycée Champollion à Figeac, ainsi qu'en Haute-Garonne et dans le Gers. Partout ailleurs, il fera beau avec là aussi 9 degrés pour l'Aveyron, 12 près de Lannemezan. Pour l'après-midi, un grand ciel bleu pour tout le monde. Le mercure montera jusqu'à 20 degrés dans le Lot. En haut de la tour d'Armagnac à Auch et à Saint-Gaudens, 21 dans les Hautes-Pyrénées et 18 pour Rodez. Les cloches vont sonner, c'est l'heure de votre rendez-vous, le tour des diocèses chez nos voisins en région Nouvelle-Aquitaine.
Et oui, Bayonne, nous retrouvons Olivier Drapé. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour Thibault.
Alors, dites-nous, est-ce que vous pouvez d'abord répondre à une angoisse immédiate? Est-ce que nous pourrons aller à la messe dimanche?
On a tous l'espoir de pouvoir aller à la messe dimanche. Je pense que la messe de la Toussaint sera maintenue. L'incertitude concerne peut-être plutôt ce qu'il va devenir après pour les lieux de culte en général.
Bien sûr, mais là déjà effectivement, il me semble avoir lu à plusieurs endroits différents, bien que ça n'a pas été dit formellement hier soir par le président Emmanuel Macron, que nous pourrions effectivement, même si nous ne sommes pas en train de voyager ou de rentrer chez nous, nous pourrions aller à la messe ce dimanche.
Il semble que ça soit possible. A priori, il faut vraiment l'espérer.
Oui, je pense que c'est important de le réaffirmer à nos auditeurs. Ils n'auront pas d'amende s'ils vont à la messe.
Non, certainement pas.
Voilà. Est-ce que peut-être pour ce dimanche, vous, dans votre diocèse, il y a des choses qui se sont organisées ou préparées qui seront maintenues?
Oui, il y a bien sûr des choses qui sont organisées. Alors pour peut-être plus particulièrement le Béarn, oui. On peut signaler, on n'en a pas souvent parlé dans le cadre de la matinale, mais les activités de la communauté des Béatitudes de Nailles,
oui,
en particulier une journée de la sainteté qui est organisée, animée par Dominique et Elisabeth Lemaître. C'est donc de 9h30 à 17h à Nailles, c'est 18 Côte Saint-Martin, c'est la communauté des Béatitudes qui est installée à Nailles et qui propose un enseignement sur le thème de la sainteté, évidemment, le chapelet, les vêpres, en ce jour de la Toussaint du 1er novembre, à condition, bien entendu, que les personnes intéressées puissent s'inscrire, le plus simple étant l'email de la communauté, nailles@beatitude.org.
Très bien.
Et au passage, je signale que bien qu'un certain nombre d'activités, de conférences soient reportées ou annulées, la communauté des Béatitudes est très dynamique et elle organise, alors un peu plus tard, ce sera le 14 novembre, une soirée Béatitude à partir de 17h, c'est de la louange charismatique. Là aussi, il est préférable de s'inscrire.
Mais là, Olivier Drapé, sans vouloir être pessimiste, ça va peut-être être compliqué de s'y rendre, non?
Je ne pense pas qu'on ne puisse pas bénéficier de dérogations pour un certain nombre d'activités.
Ouais.
Simplement, certainement, il y aura une attestation à remplir ou à
C'est peut-être difficile de dire avec certitude aujourd'hui. Jusqu'où vont s'étendre ces dérogations et qui pourra nous les signer? Je ne sais pas si le fait d'assister à une conférence est un motif suffisant pour signer une dérogation. Je ne sais pas, honnêtement.
Oui, on est encore dans l'incertitude, on peut espérer, et je l'espère personnellement, bien sûr, que les activités spirituelles liées au culte, quels qu'ils soient d'ailleurs, permettront d'obtenir une certaine tolérance, on va dire, de la part des pouvoirs publics et des agents de police. Alors, parmi les activités qui sont annulées, il y en a malheureusement, il y avait une passionnante conférence sur le sacrifice du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame qui était prévu à l'église Saint-Jacques à Pau le 5 novembre, jeudi 5. Oui. Elle est annulée, elle l'était déjà en raison du couvre-feu, donc c'est indépendamment des nouvelles dispositions annoncées par le président de la République. En revanche, a priori, la cérémonie d'inauguration du gymnase de l'Immaculée Conception, qui est un établissement scolaire à Pau, prévu le vendredi matin, le 6 novembre, a priori est maintenue, mais cette cérémonie, à laquelle l'évêque assistera avec la veuve d'Arnaud Beltrame, n'est pas non plus ouverte à tous.
Oui. Oui,
et d'accord. En ce qui concerne d'autres activités qu'on peut signaler, il y a souvent effectivement des modifications de date qu'il importe d'indiquer. Par exemple, à Pau, une structure qui s'appelle Foi et Culture, qui est un organisme diocésain, un service diocésain, organise des conférences. Il y a une conférence qui était organisée autour du rabbin de Pau, Mendy Matissov, sur la montagne d'Abraham, de Moïse et de David, par foi et culture, qui était prévue
Il va falloir qu'on s'arrête, Olivier Drapé, je suis désolé. La cloche de 7h30 approche à grands pas, il va falloir qu'on s'arrête. Suppose que tous ces renseignements...
Elle aura lieu à 17h, en fait, la veille, au centre diocésain du Béarn.
D'accord.
C'est-à-dire, elle aura lieu le dimanche 8 au lieu du lundi 9.
Je suppose que tous ces renseignements se retrouvent sur votre site internet, que vous êtes bien entendu à jour, avec toutes ces modifications, et voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Olivier Drapeau.
Oui, merci à tout le monde. Au revoir. Oui.
L'aventure Église verte pour les communautés chrétiennes qui s'engagent dans le soin de la création. Laura Morosini.
Quel lien entre la COP21 et le label Église verte? Le label Église verte, qui accompagne et stimule la conversion écologique des communautés chrétiennes, a une double origine. Laudato si, sur lequel nous reviendrons la semaine prochaine, et la mobilisation pour la conférence de Paris sur le climat, qui a secoué nos églises hexagonales comme jamais. Tout commence à la fin de l'hiver 2014. Un groupe de travail appelé Antenne Environnement élabore depuis plusieurs années des fiches thématiques destinées aux évêques pour se faire une idée des questions écologiques, biodiversité, risques technologiques. Une fiche climat est alors mise en route. Parallèlement, se crée un collectif impulsé par Justice et Paix France sur les objectifs du développement durable. Il s'agit de 17 grands objectifs que s'est fixé l'ONU afin d'améliorer le développement tout en intégrant l'écologie. Peu à peu, ce groupe œcuménique, composé de diverses ONG et représentants d'églises, deviendra un groupe COP21. Le troisième facteur est l'initiative issue de la Fédération luthérienne mondiale, qui envoie depuis plusieurs années des jeunes suivre les négociations internationales sur le climat. L'un d'eux est rentré en France avec l'idée de diffuser un jeûne pour le climat. Pourquoi un jeûne? Pour marquer la solidarité avec les populations les plus touchées par le changement climatique. C'est la rencontre avec l'association Chrétiens Unis pour la Terre qui permet à cette initiative de prendre une grande ampleur grâce à la mobilisation de son réseau de personnalités, Nicolas Hulot, Monseigneur Stinger, évêque de Troyes, l'imam de Bordeaux, Tarek Oubrou, et le réseau Action Climat. Le pasteur Claveroli, président de la Fédération protestante, participe aussi activement à la mobilisation. Et bientôt, des dizaines de groupes de jeûneurs se réunissent en France pendant 18 mois jusqu'à la conférence de Paris. D'autres initiatives chrétiennes auront lieu également pour la COP21, la préparation d'une grande marche, hélas annulée suite aux attentats du Bataclan, la diffusion publique d'un livret « Habiter autrement la création », une grande célébration œcuménique à Notre-Dame de Paris, l'accueil de pèlerins climatiques venus du monde entier dans les paroisses et les Assises chrétiennes de l'écologie qui réunissent 2000 personnes à Saint-Étienne. Toutes ces initiatives, à la fois œcuméniques et mobilisatrices, ont ravivé le goût d'agir ensemble et le collectif COP21 ne tardera pas à réfléchir à une nouvelle initiative, le label Église verte. «
Radio Présence aux portes du Tarn. 97.9.
Autostrada deserta, vento fresco su me, profumo di colitas, nell'aria si levò, e laggiù in lontananza una luce brillò, che sta pesante gli occhi stanchi ormai, la notte io mi fermai, c'era lei sulla soglia, un campanello suonò, e pensavo tra me e me, se fosse paradiso inferno, accesa una candela, la strada mi mostrò, sentivo voci lì nei corridoi, che dicevano sai, benvenuti all'Hotel California, posto amabile, posto amabile, volti amabili, molte stanze all'Hotel California, tutto l'anno sai, tutto l'anno sai, tu ne troverai, nella sua mente perversa, curve di Mercedes, e molti bei ragazzi al fianco su, amici per lei, danzano nel cortile, a dolce estate, danzano nel ricordo, o per dimenticare, ascoltami capitano, per favore Dio, mi disse, è dal 69 che noi, no, non ne abbiamo più, ed ancora sentivo le voci da lontano che mi svegliavano in piena notte, solo per sussurrare, benvenuti all'Hotel California, posto amabile, posto amabile, volti amabili, ci si diverte all'Hotel California, che sorprese poi, che sorprese poi, quanti alibi, una cosa ricordo, mentre fuggivo via, cerca il passaggio che mi riportasse fuori da quel posto, il portiere di notte disse rilassati, oramai che sei dentro non potrà andare via.
C'était David Esposito avec Hotel California. D'ailleurs, en Californie, il fait 14 degrés en ce moment. En Occitanie, il fait en moyenne 18 degrés avec un beau temps. Bon appétit si vous venez de vous mettre à table avec le soleil. Tout de suite, votre évangile.
Radio Présence à Toulouse, 97.9. L'évangile.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Gloire à toi, Seigneur.
En ce jour-là, quelques pharisiens s'approchèrent de Jésus pour lui dire : Pars, va-t'en d'ici, Hérode veut te tuer. Il leur répliqua : Allez dire à ce renard, voici que j'expulse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'arrive au terme. mais il me faut continuer ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici que votre temple est abandonné à vous-même. Je vous le déclare, vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vienne le jour où vous direz, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis pèlerins, la démarche des pharisiens qui invite Jésus à fuir parce que Hérode aurait le projet de tuer le Seigneur, ils sont d'ailleurs un petit peu hypocrites, ces pharisiens, car eux-mêmes partagent ce projet, me fait penser à toutes ces bonnes personnes qui venaient voir les parents de Bernadette pour dissuader Bernadette de retourner ici à Massabielle, prétextant qu'elle allait être arrêtée, mise en prison, que il lui est arrivé du mal, et même ses tantes en étaient terrifiées, qu'un démon allait sortir du rocher et emporter Bernadette dans les enfers. Mais l'appel de la grotte était plus fort, le sourire d'Aquero plus fort que la peur. Et Bernadette trouvait ici, sous ce rocher, la force dont elle avait besoin pour témoigner de ce qu'elle vivait, de cette rencontre, pour annoncer la parole, les messages qu'elle avait à transmettre à l'abbé Père Amal. Oui, la rencontre avec le divin qui a pris ici l'intermédiaire de la Vierge Marie nous donne une force qui dépasse tous les bons conseils de peur que l'on peut nous donner. Et il nous faut encore, frères et sœurs bien-aimés, rendre grâce au Seigneur pour sa délicatesse, sa bonté. En ces heures où la peur pourrait nous dominer, où l'abattement, peut-être même le désespoir pourrait nous emporter comme une vague. Nous souvenir, comme Jésus le proclame lui-même dans l'Évangile, que c'est lui le maître de l'histoire. Et que, à la fin, c'est pas lui qui va gagner, c'est lui qui a déjà gagné. Le Seigneur est vainqueur. Il nous parle lui-même explicitement du troisième jour. Aujourd'hui, demain, je fais des guérisons. Mais le troisième jour, j'arrive à mon terme. Oui, Hérode va me tuer. Finalement, dit-il. Mais vous ne me verrez plus jusqu'au jour où vous direz « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Certes, ça parle des rameaux. Mais pour entrer à Jérusalem le jour des rameaux, Jésus a descendu le mont des Oliviers, et que les habitants de Jérusalem l'ont vu arriver depuis l'est, depuis le soleil levant, depuis ce soleil qui chaque matin se lève pour nous rappeler que la vie est vainqueur de la mort, que l'espérance est plus forte que nos peurs, parce que notre espérance s'appuie sur une réalité. Jésus est vainqueur, il est le maître de temps et de l'histoire. et c'est sur lui que nous sommes invités à nous appuyer, lui qui est notre rocher. C'est en lui, comme nous l'a rappelé saint Paul, que nous sommes invités à puiser nos forces. Alors, tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, en ces jours d'épreuves, d'abattement, peut-être même de désespoir pour certains d'entre nous, reprenons cette parole que le Seigneur nous adresse plus de 365 fois dans la Bible, que le Saint-Pape Jean-Paul II, que nous fêtions il y a une semaine, répétait sans cesse, « N'ayez pas peur ». Soyons, en tant que chrétiens, des témoins de l'espérance. Cette espérance qui n'est pas un simple optimisme que après la pluie, le beau temps, non. Cette espérance qui est fondée sur une réalité, sur une rencontre avec Jésus ressuscité, qui m'a sauvé, qui est vainqueur de mes peurs, de mon péché, et qui est même, comme saint Paul nous dit, vainqueur de toutes ces puissances terrestres ou célestes qui voudraient nous arracher à lui. Oui, frères et sœurs bien-aimés, plus que jamais, nous avons besoin, et le monde a besoin, que nous soyons des témoins de l'espérance. Plus que jamais, les épreuves sont une invitation à la conversion, à nous tourner vers le Seigneur, à supplier, comme nous y invite saint Paul dans la première lecture, à prier, à nous tourner vers lui, vers l'est, vers le soleil levant, en disant « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », ou comme le disent les derniers mots de la Bible, « Maranatha, viens Seigneur Jésus. Amen ».
Si vous souhaitez tout savoir sur votre radio préférée, alors oui, vous avez le site le www.radioprésence.com, mais aussi les réseaux sociaux avec la page Facebook Radio Présence ou le Twitter. Dans 6 minutes, nous ferons un point sur l'actualité dans votre région. Mais avant, un auteur, compositeur, interprète et pianiste français, Daniel Lévy, avec sa formidable chanson « L'envie d'aimer », juste avant de repartir au travail dans l'ex-région Midi-Pyrénées.
Tellement seul l'amour, tellement possible l'amour, à qui l'entend, regarde autour, à qui le veut. C'est tellement rien d'y croire, mais tellement tout pourtant, qu'il vaut la peine de le vouloir, de le chercher.
Radio Présence, dans la vallée de la Garonne, 97.9.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, les titres en Occitanie. Georges Méric, président du département de la Haute-Garonne, parmi les premiers à agir suite à l'annonce du reconfinement. Je regrette les tergiversations du gouvernement ces dernières semaines et les décisions prises au compte-gouttes qui nous ont fait perdre un temps précieux contre la maladie, a-t-il déclaré. Appel aux bénévoles des EHPAD en Aveyron. Les directeurs d'EHPAD de l'agglomération de Rodez et les personnes de santé lancent un appel aux bénévolat pour aider les personnes âgées à être le moins perturbé possible par la Covid. Le confinement a eu des conséquences psychiques importantes pour les Français. C'est le résultat de l'étude menée par Florence Sorde, maître de conférence en psychologie à l'Université de Toulouse. 20% des sondés ont développé de la détresse psychologique importante. La région Occitanie a assuré une troisième livraison à la Banque alimentaire de Hoche. Lancée pendant le premier confinement, l'opération menée par la région permet l'accès aux produits frais pour les plus défavorisés. À Haussin, le projet de porcherie ne se fera pas. La société Select Porc a déclaré d'abandonner le projet qui devait accueillir sur le village près de 2000 porcelets par cycle d'engraissement. Avant Toussaint, les gendarmes appellent à la prudence. Les gendarmes attendent une recrudescence de vols autour des cimetières. Le Castellet rénové de la prison à Saint-Michel à Toulouse a ouvert pour la première fois ses portes au public. La mairie en a fait un parcours mémorial mêlant l'histoire pénitentiaire aux souvenirs de la résistance toulousaine et la détention et l'exécution des prisonniers politiques sous l'occupation.
J'ai l'art de me défiler. Je passe toujours à côté, je collectionne les actes manqués, j'aurais dû oublier. Ton regard remplit mes pensées, quelques mots étrangers, pas même juste le temps de s'aimer, mes minutes sont comptées. Même si c'est pour voir, mais pour s'aimer mieux, prendre le temps.
s'appelle La Tortue dans le Milieu. Celui qui a gagné le concours La Nouvelle Star en 2006, c'était Christophe Willem avec Rio sur votre radio chrétienne. Un coup d'œil sur votre météo pour cet après-midi. Vous aurez des éclaircies partout dans l'ex-région Midi-Pyrénées. 18 degrés en moyenne pour demain matin, de la brume dans quelques départements, avec 9 degrés près du lycée Champollion à Figeac, ainsi qu'en Haute-Garonne et dans le Gers. Partout ailleurs, il fera beau, avec là aussi 9 degrés pour l'Aveyron, 12 près de l'Annemezan. Pour l'après-midi, un grand ciel bleu pour tout le monde. Le mercure montera jusqu'à 20 degrés dans le Lot, en haut de la tour d'Armagnac à Auche et à Saint-Gaudens, 21 dans les Hautes-Pyrénées et 18 pour Rodez. Je vous laisse avec Radio Vatican, votre journal international en direct de Rome, et je vous dis à demain midi. Prenez soin de vous.
Présence à Luchon, 94 FM.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Radio Vatican.
La France de nouveau visée par une attaque terroriste. 3 personnes ont été tuées dans et devant la basilique Notre-Dame à Nice.